vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Mercredi 29 janvier. Bonsoir à tous, c'est la session Soirée de l'Info sur RFI. Ça commence maintenant, on vous emmène pour un voyage de 3 heures. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, cette question, quel avenir pour le Groenland face aux convoitises de Donald Trump?
Oui, l'inquiétude qui monte au Danemark face aux velléités du président américain de faire main basse par la force s'il le faut sur le Groenland. De quoi mettre en alerte également l'Union européenne menacée par son grand allié américain sur ses propres frontières. La bataille pour le Groenland se jouera-t-elle sur les terres glacées de l'île ou bien sur le front commercial? On en parle ce soir avec Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, et l'historien militaire Guillaume Lascongiarias.
À tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour, alors que les acteurs du sport français sont vent debout après l'annonce de possibles nouvelles coupes. Le budget du ministère des Sports pourrait être amputé au total d'un tiers par rapport à l'année dernière. Et face à cela, notre question, la culture sportive est-elle en péril en France? Qu'est-ce que ces pistes envisagées disent de la considération du sport, facteur de bien-être, facteur d'inclusion? Rendez-vous dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, 18h30, TU Afrique Soir, la première édition. Évidemment, nous ferons un point précis sur ce qui se passe ce soir à Goma, dans l'est de la RDC. 19h10, TU, votre session reportage. Pendant 50 minutes, Accent d'Europe sera ce soir en Serbie, où la contestation prend de l'ampleur. Elle a conduit cette contestation hier à la démission du Premier ministre. Enfin, le grand reportage sur la piste des derniers Jaguars d'Argentine. Tout un programme. Tout un programme qui débute à 18h02 ici à Paris par le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et pour commencer, cette nouvelle libération d'otages israéliens prévue demain jeudi.
La liste a été transmise aux autorités israéliennes. 8 otages seront relâchés par le Hamas, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais. L'État hébreu annonce dans la foulée que 3 hommes seront libérés par le mouvement islamiste samedi. En échange, des Palestiniens doivent quitter les prisons israéliennes conformément à l'accord de trêve signé. À Gaza, pour la première fois depuis le cessez-le-feu, un bateau d'aide humanitaire a transité par le port égyptien d'Al Arish. Un navire turc chargé de plus de 800 tonnes de matériel sanitaire, de tentes et de couvertures. L'aide sera ensuite acheminée dans l'enclave palestinienne et les besoins sont immenses. Après 15 mois de bombardements incessants, le chantier est chiffré entre 100 et 200 milliards d'euros au moins, autant d'immeubles, de routes et d'infrastructures à rebâtir. La reconstruction pourrait durer plus d'une décennie, selon les ONG. Xavier Guignard est chercheur associé à Noria Research.
Tout le matériel de bâtiments et travaux publics, de génie, qui était disponible à Gaza, a été aussi la cible des attaques israéliennes durant les 14 derniers mois. Et donc, les camions de déblaiement, les pelleteuses, les tractopelles sont pour la plupart détruits ou endommagés. Et donc, il va falloir les faire venir par voie terrestre. Et donc, ça nécessite aussi de pouvoir reconstruire et déblayer ces voies-là. Donc, c'est un travail qui est extrêmement long et il n'y a pas les infrastructures aujourd'hui nécessaires pour entamer tout de suite le chantier. Mais la reconstruction ne peut pas être limitée à celle du bâti parce que les infrastructures ayant été complètement dévastées, il faut aussi reconstruire une centrale électrique, des usines de désalinisation pour avoir de l'eau à disposition. Et donc, tout ça doit être mené de front et en parallèle pour pouvoir avoir un habitat fonctionnel.
Xavier Guignard était interrogé par Pierre Olivier. Félix Tshisekedi doit s'adresser aux Congolais en fin de journée, une intervention après l'annulation d'un sommet avec Paul Kagame. Les présidents de la RDC et du Rwanda devaient se retrouver aujourd'hui pour évoquer la situation à Goma. Le M23 et l'armée rwandaise progressent toujours à l'est. Les combats ont déjà fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés. L'Angola, dans un communiqué, demande comme médiateur un retrait immédiat du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Aux États-Unis, Donald Trump poursuit sa croisade contre les personnes transgenres. La Maison-Blanche a publié un décret qui met fin aux aides publiques pour les opérations de transition de genre des mineurs, chimiques comme chirurgicales. Le président américain promet de s'y opposer par toutes les voies légales possibles. Anne Verdaguer.
Les mots de Donald Trump ne sont pas assez forts pour dénoncer ce qu'il appelle des mutilations sur un nombre grandissant d'enfants impressionnables qui regretteront vite leur décision horrible, selon lui. Une tendance dangereuse qui sera une tache sur notre histoire et qui doit prendre fin. Dont acte, le décret signé ce mardi interdit au gouvernement fédéral de financer des établissements de santé qui pratiquent des procédures de transition de genre sur les mineurs. Si ce décret s'applique uniquement aux ministères et aux agences fédérales, et notamment aux polices d'assurance de type Medicare et Medicaid pour les plus démunis, la moitié des États américains a déjà prohibé les traitements pour les mineurs transgenres. Cela représente plus de 300 000 jeunes américains âgés de 13 à 17 ans. En seulement 8 jours depuis sa prise de fonction, le président américain a enchaîné les décisions à l'encontre de la communauté transgenre, niant leur existence administrative en ne reconnaissant que deux sexes à la naissance ou les empêchant de servir dans l'armée. Des groupes de défense ont déjà fait connaître leur volonté de porter plainte.
Bernard Arnault était présent à l'investiture de Donald Trump. Le PDG du numéro 1 mondial du luxe apprécie la politique du nouveau président américain. Il critique, en revanche, le gouvernement français. LVMH a dévoilé ses résultats annuels hier soir. L'année 2024 a été marquée par un recul de ses ventes et une baisse de son bénéfice. Bernard Arnault en a profité pour critiquer le projet de budget. Une mesure en particulier déplaît aux multimilliardaires, celle d'augmenter fortement les impôts sur les grandes entreprises. Justine Fontaine.
Plus 40% d'impôts sur les sociétés qui font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Cette surtaxe proposée par le gouvernement doit encore passer l'étape très délicate du vote au Parlement et elle ne serait appliquée que pour un an. Mais LVMH, la maison mère de Dior ou encore de Louis Vuitton, serait concernée directement. Alors son patron, Bernard Arnault, s'en est agacé publiquement lors de la présentation des résultats du groupe hier soir.
À peine croyable. Donc on va taxer le Made in France.
Avec une menace à peine voilée de la part du patron du luxe.
Pour pousser la délocalisation, c'est idéal.
En revanche, il encense les mesures prônées par le nouveau président américain.
Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États. Et le président américain encourage ça.
Il faut dire que Bernard Arnault et Donald Trump se connaissent bien. Le patron d'LVMH était le seul Français présent dans le premier cercle des invités à l'investiture du président ce mois-ci. Et grâce à la proximité entre les deux hommes, le champagne, activité importante du groupe français du luxe, avait échappé aux sanctions américaines sur le vin lors du premier mandat de Donald Trump.
En Allemagne, la droite et l'extrême droite viennent d'adopter ensemble un texte anti-immigration. Une alliance qui va faire des remous alors que les élections se tiennent à la fin du mois. Avant l'annonce de cette annonce, le chancelier Olaf Scholz avait estimé que cette alliance serait une erreur impardonnable. Du foot à présent et la dernière journée de la première phase de la Ligue des Champions. À l'affiche ce soir notamment PSV Eindhoven, Liverpool, Barcelone, Atalanta, Bergame et aussi Stuttgart contre le PSG. Un match qui s'annonce indécis. Les deux équipes qui comptent 10 points dans ce classement unique ne sont pas encore définitivement qualifiées. Et si les Parisiens 22e abordent ce rendez-vous avec plus de confiance une semaine après leur victoire contre Manchester City, le défenseur Lucas Hernandez se méfie, lui qui connaît bien Stuttgart et la Bundesliga pour avoir joué 4 saisons au Bayern Munich. On l'écoute.
J'ai déjà joué ici avec mon ancien club. C'est vrai que voilà, on sait qu'ici en Allemagne, il y a toujours des bonnes ambiances dans les stades. Les supporters sont toujours là, sont toujours présents et encore plus dans ce type de match. C'est vrai que voilà, on va s'attendre à un match pas facile, bien sûr, avec beaucoup d'intensité. La plupart des équipes d'Allemagne mettent beaucoup d'intensité dans tous les matchs. Du coup, il va falloir être prêt dès le début parce que je pense que ça va être un match très serré dès le premier sifflet de l'arbitre.
Stuttgart, PSG, coup d'envoi à 20h, temps universel. Rendez-vous sur l'antenne à partir de 19h40, temps universel, pour suivre cette soirée spéciale Ligue des Champions sur l'antenne d'RFI. Un mot de hand également à la dernière seconde. Luka Karabatic a envoyé la France en demi-finale du Mondial hier soir. 34 à 33, score final pour l'équipe de France contre l'Égypte. Jeudi, les Français affronteront les Croates qui se sont imposés face à la Hongrie. Enfin, le comte de Monte Cristo est en tête dans la course au César. La cérémonie aura lieu le 28 février prochain. L'adaptation du livre d'Alexandre Dumas totalise 14 nominations devant Lamourouf et Emilia Pérez. Un an après le sacre de Justine Triet pour Anatomie d'une chute, aucune cinéaste n'est en lice pour le trophée de la meilleure réalisation. Jacques Audiard, en revanche, est l'un des favoris pour lui succéder.